Alors, bonjour à tous en ce mardi 30 janvier. Une petite journée plutôt fraîche.
Plutôt fraîche. On a failli annuler comme la semaine dernière à cause du temps. Mais non, nous sommes bien là.
Difficile. Mais la chaleur se trouve ici. Restez avec nous. On va parler de plein de choses. Bon, je suis Michel Audet. Comme à l'habitude, je vous parle de voyage, de nature et de science. Je suis en compagnie d'une part de mon complice de plusieurs mois déjà.
Ça, c'est bientôt.
Oui, de Bernice.
Bientôt 2 ans. Bonjour à tous.
Oui. Et on souhaite la bienvenue à une nouvelle qui arrive parmi nous, qui est Yolaine Torres.
Bonjour.
Qui nous parlera, je crois, de mode d'alimentation et de santé.
Et de beauté aussi.
Et de beauté. Ah, voilà, la beauté est ici.
M'accueillir dans votre belle équipe du mardi.
Un grand plaisir de joindre à nous. Alors, Louis. Des sujets aujourd'hui.
Des sujets, oui, j'en ai. Nous parlerons de la police des tatouages, si vous le voulez bien. Également de la loi sur les homards. Et peut-être également, si nous avons le temps, d'un crocodile qui vit dans un sous-sol.
Oh. Et Yann ?
Alors, en ce qui me concerne, je parlerai d'abord d'alimentation avec cette question que vous êtes peut-être déjà posée. Pourquoi y a-t-il si peu d'insectes dans nos assiettes ? Et nous parlerons ensuite beauté, comme nous l'avons dit. Deux experts nous donneront les clés pour bien choisir son parfum.
Bon, et de mon côté, je vous amènerai faire un tour à Vegas, Las Vegas. C'est pas qu'une maison de jeu, Vegas, hein? Il y a autre chose à découvrir, on va vous en parler. Et je vais parler d'un sujet aussi, le glyphosate. Alors, qu'est-ce que c'est que le glyphosate? Bah, restez avec nous, vous allez savoir. Alors, bien sûr, Las Vegas, c'est la capitale du jeu. Mais il y a d'autres atouts aussi, hein. Et vous avez de plus en plus d'hôtels à Vegas qui proposent des attractions de toutes sortes, certaines insolites. Et on peut s'offrir une balade en gondole, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à Venise. Balade en gondole sur les canaux d'hôtel Venetian, donc le Vénitien. Ou on peut même monter la tour Eiffel de l'hôtel Paris, qui est une réplique à demi-échelle quand même. Hein? Mais il ne faut pas manquer les jardins botaniques du Bellagio. Ils ont une équipe de 120 jardiniers et paysagistes. J'ai un petit morceau de glace dans la gorge, hein, mais ça va passer tranquillement. Et surtout à l'approche de Vegas, ça va se réchauffer. Donc, vous avez 120 jardiniers, paysagistes, superbes plantations qui changent d'allure à chaque saison. Les moissons en automne, la thématique des fêtes en décembre et celle du Nouvel An chinois qui en met plein la vue. Et on peut même jeter un coup d'œil sur les superbes décorations en verre de Murano dans le hall d'entrée. Et une magnifique galerie d'art. Et en allant vers le sud de ce qu'on appelle la Strip, qui veut dire une grande bande, hein, où vous trouvez les hôtels de chaque côté. Vous avez un tram aérien gratuit qui fait la navette entre le Bellagio, le Monte Carlo, entre différents hôtels. Et en continuant, vous pouvez vous arrêter voir l'exposition sur le Titanic, qui est présent à l'hôtel Luxor. Et il y a un endroit impressionnant à Mandalay Bay, qui est le Shark Reef, le récif aux requins. Alors, vous voyez, vous avez une variété incroyable, hein? Et l'après-midi, si on veut rester au frais, parce que c'est un peu chaud, hein? Vous pouvez aller faire du lèche-vitrine dans des galeries marchandes et vous allez en trouver un peu partout. On ne sait pas toujours, mais Las Vegas se classe maintenant parmi les paradis des gourmets aux États-Unis. Ça peut être quand même surprenant, hein? Plusieurs hôtels, Mandalay, le Bellagio, le Caesars Palace, et propose des expériences gastronomiques mémorables et concoctées par des grands chefs. Hein. Je pense à Alain Ducasse particulièrement. Alain Ducasse qui faisait l'éloge de Paul Bocuse dans le dernier Paris Match en passant. Ben, souvent, ces grands noms de la cuisine possèdent leur propre restaurant et réinventent certains classiques. Vous allez trouver aussi des meilleurs sommeliers, mixologues. Et ben, le soir, vous avez une énergie dans nocturne incroyable, hein, avec les néons, avec, mon Dieu, c'est resplendissant. Ça brille de tout, Vegas brille de tous ses feux. Et quand il ne s'agit pas de flammes réelles, carrément, hein, parce que pendant la soirée, à quelques reprises, vous avez un volcan devant l'hôtel Mirage. Un volcan d'éruption, hein, qui crache des éclats de lave à une quarantaine de pieds dans les airs. Et des milliers de jets d'eau se déclenchent en cascade dans les fontaines du Bellagio. Vous pouvez aussi célébrer la créativité québécoise, bien sûr, on la connaît bien, hein? Ben, notre Céline, disons, Caesar's Palace. Ensuite de ça, vous avez le Cirque du Soleil qui a présenté de nombreux spectacles, hein? Ballet aquatique de haut, prouesse acrobatique de cas, donc vous avez des spectacles en permanence maintenant. Vegas est une oasis, il faut pas l'oublier, qui est encerclée de beaux déserts. J'en sais quelque chose parce qu'à 19 ans, je suis allé à Vegas et j'ai manqué d'essence en plein désert, en compagnie de mon ami Marcel, que je salue parce qu'il nous écoute ce matin. Alors, c'était une expérience, je ne m'attendrai pas sur cette expérience très particulière. Et vous pouvez aussi, alentour, vous rendre à certains canyons. Vous avez, entre autres, le canyon du Red Rock, route panoramique qui serpente à travers d'étranges montagnes. C'est des paysages qu'on retrouve dans des westerns américains particulièrement. Et vous avez la Vallée de Feu, Valley of Fire, un parc tout à fait spectaculaire où on découvre des pétroglyphes. Les pétroglyphes, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est des dessins qui ont été gravés sur la pierre, mais ça correspond à l'art rupestre d'une certaine façon. Si on souhaite en voir un peu plus, bon, on peut aller un peu plus loin, partir en excursion vers un endroit, un des plus beaux endroits que j'ai pu voir, qui s'appelle le Bryce Canyon. Parce qu'on parle beaucoup du Grand Canyon. Le Grand Canyon aussi qu'on peut aller visiter. Grand Canyon qui est immense, donc à perte de vue. Alors que le Bryce, vous pouvez y descendre et vous êtes entouré de monuments. C'est ma première découverte, je peux dire, lors d'un voyage. Puis même, si j'avais les moyens, aller vous promener en hélicoptère au-dessus du canyon. Et c'est magnifique. C'est facile de s'y rendre, hein, parce qu'il y a Air Canada, qui propose des vols directs à partir de Montréal, mais régulièrement. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus à Vegas que simplement les casinos. Parce que les casinos, en tout cas, pour moi, pour certains gens, c'est peut-être l'inverse, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à Vegas. Mais c'est intéressant pour Vegas, parce que ça les fait vivre, hein, bien sûr. Hein. Alors, c'est un petit tour d'horizon rapide à Las Vegas.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours.
Nous sommes partis vers l'ouest avec Michel. Eh bien, je vous emmène encore plus à l'ouest. Changement de décor, partons en Thaïlande. Pour être un bon policier, a priori, il faut être physionomiste pour se souvenir des visages. Mais quel mot vint-on inventer pour ceux qui arrivent à se souvenir des tatouages ? Après 13 années, nous partons à Bangkok. Après 13 années comme fugitif en Thaïlande, un yakuza japonais, démasqué grâce aux photos de ses tatouages devenus virales sur le net, a été arrêté par la police thaïlandaise. Shigeharu Shirai, je n'espère ne pas avoir écorché le nom parce que le bonhomme en a vu et en a intimidé plus d'un, 72 ans, c'est un monsieur d'un âge avancé, a été interpellé mercredi à Lopburi, petite ville du centre de la Thaïlande, connue pour ses centaines de singes en liberté dans les rues. Le suspect a reconnu qu'il était le chef du sous-gang Yakuza Kodokai, a déclaré jeudi Wirachai Songmeta, le porte-parole de la police thaïlandaise. Ce gang fait partie de l'un des plus grands gangs de Yakuza, le Yamaguchi Gumi. Les autorités japonaises le recherchaient notamment pour son rôle dans l'assassinat d'un rival en 2003. Le suspect n'a pas avoué le meurtre, mais a reconnu que la victime le menaçait, a ajouté le porte-parole de la police. Peu de temps après le meurtre, Shigeharu Shirai avait disparu dans la nature et était en fait venu se cacher en Thaïlande où il s'était même marié. Le secret de sa cachette semblait bien gardé jusqu'à ce qu'un journal local poste la photo de cet homme frêle en train de jouer aux dames dans la rue en arborant d'immenses tatouages et un petit doigt en moins. Partagé plus de 10 000 fois sur Internet, les clichés ont attiré l'attention de la police japonaise qui a demandé à Bangkok d'enquêter. Sans passeport ni visa, il a été officiellement arrêté pour être entré illégalement en Thaïlande et sera extradé pour faire face à des poursuites au Japon. Quelque 70 000 Japonais vivent officiellement en Thaïlande où les constructeurs automobiles japonais ont délocalisé nombre d'usines. D'après la police thaïlandaise, le gangster a fait profil bas depuis son arrivée en Thaïlande il y a 13 ans, recevant de l'argent deux ou trois fois par an de la main d'un Japonais qui venait lui rendre visite. Tout comme leur pendant italien avec la mafia ou chinois, les triades, les Yakuza vivent notamment du jeu de la drogue et de la prostitution, mais ils sont aussi immiscés au fil des années dans de nombreux secteurs d'activité comme le BTP, le recyclage ou le recrutement, dont ils perturbent les règles et rackettent des sociétés. L'existence de ces clans apparus dans le chaos du Japon d'après-guerre est autorisée en tant que telle, bien qu'une partie de leurs activités soit interdite. D'après les sociologues, la présence des Yakuza réduit la petite délinquance contrôlée par ces organisations, et on peut les retrouver un peu partout en Asie.
Oui.
On était jeunes, on se croyait dans un film de Woody Allen, en rigolant à perte d'haleine. On se croyait dans un tableau de Picasso, on était une jeunesse pleine d'ivresse, dessinant nos portraits si abstraits. On était dans l'âge con, mais si bon. C'était une sorte de révolution. Et puis nos rires, et puis son sourire. On marchait et on se regardait, ivre de vivre, ivre d'un amour si grand. Même pour le pire, on était vivant. C'était un jeu d'enfant, on se sentait gagnant d'un temps les plus grands, jouait à plus perdant, nous faisions les 400 coups, mais sans aucun tabou, car la vie est une chance qui se vit sans seconde danse.
Espoir à la chance, car la vie tout récent extrait de Lulu Gainsbourg. La pièce s'intitulait « Jeux d'enfants ».
Alors, Yolaine, on brise la glace. C'est comme le dire ce matin. Hein?
Exactement. Alors, nous étions en Thaïlande avec Louis, là où il est justement plutôt courant de retrouver des insectes dans nos assiettes. Mais alors, pourquoi y en a-t-il si peu ici, justement, dans nos assiettes? C'est une question posée par Camille Dauphiné-Pelletier dans Le Devoir du 20 janvier 2018. Alors, ça fait quelques années qu'on en parle. Les insectes font partie du futur de notre alimentation. Des centaines d'espèces sont nutritives, tout à fait digestes et constituent une solution de rechange éco-responsable à la consommation de protéines animales. Pourquoi alors n'en voit-on pas sur les tablettes des épiceries ou dans les repas de nos collègues? L'alimentation, c'est plus que de la nutrition, c'est aussi de l'imaginaire. Et comme le disait si bien Claude Lévi-Strauss, pour qu'une chose soit bonne à manger, il faut d'abord qu'elle soit bonne à penser. Remarque d'entrée de jeu le sociologue de l'alimentation Jean-Pierre Lemasson. On mange couramment des insectes dans une quarantaine de pays à travers le monde. Dans certains pays d'Afrique, on considère d'ailleurs les termites comme un vrai régal. Mais il est évident qu'ils sont loin de susciter une réaction initiale positive en Occident. Alors tout ce qui est insectes chez nous a tendance à être associé à un monde obscur, à de la vermine, à des maladies possibles et aux néfastes. Manger une mouche ou un ver de terre, c'est quelque chose par exemple qui paraît un peu répulsif pour la majorité des Occidentaux, même sous leur forme transformée, puisqu'il y a un transfert de notre imaginaire négatif, poursuit Monsieur Lemasson. Une des raisons pour cela, c'est que nous vivons dans une société où il y a une abondance de protéines animales. S'il y avait eu plus de rareté, peut-être qu'on se serait mis à goûter les insectes, à les essayer, à les évaluer différemment. Alors ce type de dégoût qui varie selon les cultures se retrouve dans notre vision de plusieurs autres aliments. Pensons simplement au fait que les Coréens mangent du chien, alors qu'on n'imaginerait jamais faire la même chose en Occident. Alors sur plusieurs années, des changements s'observent quand même, remarque Jean-Pierre Lemasson. Le fameux chou frisé, le choucal, qui était perçu comme bon pour les lapins il y a une vingtaine d'années, se retrouve maintenant au McDonald's. Et oui, les sushis font pour leur part partie des aliments exotiques qui ont pris une place considérable dans notre alimentation. Alors, pourrait-il en être de même pour les insectes? La journaliste Camille Dauphiné-Pelletier s'intéresse alors aux amateurs de plein air. En effet, c'est principalement dans des magasins comme la Cordée que sont distribués les produits Duca Protéines, une compagnie qui vend des barres protéinées au grillon, de la farine de grillon ainsi que des grillons entiers séchés. Les gens qui choisissent nos produits mettent la valeur nutritionnelle au premier plan et l'environnement vient plutôt au deuxième plan, estime Marie-Lou Tremblay, fondatrice et propriétaire de l'entreprise ouverte depuis 2013. Les barres protéinées fonctionnent bien avec les gens qui font du plein air. La farine de grillon obtient une réponse d'une clientèle plus large, des gens qui veulent introduire un nouvel aliment, un peu comme quand on parlait de la protéine de soya il y a quelques années, explique-t-elle. Madame Tremblay affirme que les épiceries indépendantes commencent à s'intéresser davantage aux produits issus des insectes, mais que les grands distributeurs sont encore à l'étape des tests de marché dans quelques quartiers précis. Elle estime quand même que ces produits auront un bel avenir. La farine risque de se mettre en marché comme des produits qui sont consommés en additifs, dont la graine de chia, tandis que les produits finis, tels que les bars, les croustilles ou les craquelins, vont se positionner plus comme les sushis. On peut avoir une grande panoplie de produits issus des insectes, tant salés que sucrés. Le défi va être de trouver leur place sur les étagères. Le consommateur est plus près que ce qu'on ne pense, c'est l'industrie qui est moins favorable, évalue la femme d'affaires. Quant à savoir si les smoothies aux protéines de grillon se retrouveront en 2018 sur l'ardoise des cafés branchés, les paris sont ouverts. Il suffit parfois qu'un établissement ouvre le bal pour qu'une tendance se répande comme une traînée de poudre. Alors cet article paru dans Le Devoir donne également quelques infos sur l'aspect nutritionnel des insectes. Alors il faut savoir qu'à poids égal, ils comprennent autant de protéines que le bœuf. Ils contiennent aussi des bons gras, comme de l'oméga 3, des fibres alimentaires et du calcium, ce qu'il n'y a pas du tout dans la viande, de la vitamine B12, des minéraux, du fer. On n'en parle pas pour rien, ça mérite qu'on essaie de changer notre perception, assure Stéphanie Côté, nutritionniste pour Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Elle convient tout de même que pour le moment, il n'est pas aisé de s'approvisionner en insectes, mais que ça devrait venir. Comme plein d'autres aliments, c'est de moins en moins marginal. Il suffirait qu'une vedette d'Hollywood décide de se mettre à manger des insectes. Ah oui. Voilà, et ce serait parti. Elle assure-t-elle, on ne sait pas ce que ça va être, la bougie d'allumage.
Ah oui, c'est juste. Je pense que, si je ne me trompe pas, à chaque année, il y a à l'insectarium, il y a une une séance de dégustation d'insectes.
Ah oui, ici? Oui,
c'est ça. Une certaine sensibilisation. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de la planète, hein, des insectes. C'est nutritif, ça a beaucoup de qualité.
Plein de protéines, plus que...
Ah oui, exact.
Plus de nutriments, de bons nutriments que la viande, apparemment.
Oui, intéressant. On a beaucoup parlé, même j'ai traité le sujet il y a un certain temps, de la disparition des abeilles dans le monde. Mm-hmm. Bon, on va faire une mise au point là-dessus. Combien reste-t-il d'abeilles domestiques au Québec? Ben, je vous donne un indice. En 2005, on dénombrait 37 000 colonies ou ruches. Et ça, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui nous le dit. Alors, compte tenu de tous les malheurs qui s'abattent sur ces butineuses, ben, on pense au réchauffement du climat, les parasites, les néonicotinoïdes, dont on a parlé ici abondamment aussi, les insecticides. Ben, il doit en rester beaucoup moins, hein? Donc, j'ai dit 37 000 en 2005. Ben, combien vous dites, hein? 25 000, 20 000? Autrement, médias, politiciens, des groupes de pression ne se relèveraient pas pour nous rappeler leur déclin et même leur disparition. Hein? Et peu de sujets ont aussi tendance que le déclin des abeilles domestiques. Mais l'auteur nous dit, on m'excusera de ne pas suivre cette tendance. Surtout les statistiques me donnent raison. En 2016, dernière année où les chiffres sont disponibles, il y avait 64 000 colonies d'abeilles au Québec. Pas moins qu'en 2005, comme on le voit, mais plus qu'en 2005. Au Canada, le nombre de ruches a doublé depuis 1961. Mais qu'il y a eu un important recul à la fin des années 80. Ben, cette tendance se reflète partout dans le monde où on compte 83 millions de colonies, 34 millions de plus qu'au début des années 60, alors qu'on parle de leur disparition. Et ça, c'est la Food and Agricultural Organization qui nous le dit. Donc, c'est déjà sérieux, ça. Dans ce cas, comment peut-on dénoncer des taux de mortalité effarants chez les abeilles? On parle parfois de 40 % 50 % par année. Ben, 50 % par année, ça veut dire qu'il n'y en aurait plus. Hein? Et pourquoi on nous dit ça? Ben, lui, il voit deux explications. La première, c'est que la cause des abeilles est devenue politisée. Ça laisse entrevoir un scénario assez familier. Une bonne partie de ceux qui prennent la parole, y compris les médias, retiennent seulement les faits qui font leur affaire. La seconde explication, c'est que le nombre de colonies est un indicateur, parmi d'autres, de la santé des populations d'abeilles. Or, le nombre important de colonies ne montre qu'une partie de la réalité. S'il n'y a plus d'abeilles aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont en demande pour polliniser de grands champs de bleuets, de canneberges, de canola. Mais ce nombre de colonies ne dévoile rien sur leur santé, laquelle est bel et bien menacé. Alors, parmi les nouveaux dangers qui pèsent sur les butineuses, il y a la tristement célèbre mite Varroa, qui fait des ravages depuis son introduction en Amérique du Nord en 1987. Sans compter qu'il y a plus de maladies qu'avant. Bactéries, virus, champignons, protozoaires, etc. Alors, la vie d'abeille est par ailleurs difficile. La pollinisation des grands champs implique de très longs voyages et une alimentation moins variée. Et les insecticides, ben, compliquent les choses aussi. Hein. Résultat, la mortalité hivernale oscille entre 20 % et 30 % alors qu'elle devrait se situer autour de 15 % Bon, c'est pas l'apocalypse annoncée, mais ça reste au-dessus de la normale. Ah, pour compenser, les apiculteurs du Québec doivent doubler d'ardeur. En 2000, ils ont produit 14 500 reines. Des morceaux de colonies qu'on fait croître pour augmenter le nombre de ruches. En 2015, ils ont généré près de 27 000 reines. Donc, j'ai déjà 14 500 auparavant. Donc, on en produit de plus en plus, si vous voulez. Malgré tout, c'est pas demain qu'on manquera d'abeilles. Cette idée de disparition, c'est un mythe dont il faudra bien se débarrasser un jour si on veut débattre des réels problèmes qui affectent ces insectes. Donc, les insectes sont en diminution, mais pas en danger de disparition.
Et si jamais vous voulez avoir votre propre ruche, même en ville, j'ai le nom d'une compagnie qui pourrait vous intéresser. Il s'appelle Alvéole et qui propose de venir installer dans votre jardin ou même sur votre toit une compagnie de ruches, on va dire, une qui vous permettra ensuite de récolter votre miel. Il vous propose de venir l'installer et de vous éduquer, vous sensibiliser à cette cause.
Oui, voilà. Il faut voir la réglementation municipale aussi. Hein.
Mais c'est assez accepté, je crois. En centre-ville, il y a plusieurs. Je connais notamment la boutique Burks qui a des ruches sur son toit, sur la rue Sainte-Catherine, vraiment en centre-ville.
À ne pas garder à l'intérieur de la maison.
Non, ça, on va éviter si c'est possible. Nous avons parlé d'abeilles, et bien parlons de chameaux. Un chameau peut-il mourir de soif? Et comment ça fonctionne, un chameau? Le chameau a deux bosses sur le dos, à ne pas confondre avec le dromadaire. Ces bosses sont remplies d'une centaine de kilos de graisse. Ainsi, au besoin, l'animal peut oxyder cette graisse grâce à des enzymes qui en libèrent l'eau. En même temps, il sue et urine peu, ce qui économise le liquide. Par conséquent, le chameau peut se passer de boire de 2 à 3 semaines durant la saison chaude et de 4 à 5 semaines lors de la saison fraîche. Mais après ce délai, il risque en effet d'avoir soif, alors il faut trouver une oasis.
Alors, nous irons à une brève pause. Restez avec nous, on a encore plein de sujets qui vont vous intéresser.
À gagner.
On vient d'entendre, bien sûr, Harmonium avec cette pièce qui n'a plus besoin de présentation, tirée de l'album Harmonium pour un instant, un succès de 1974.
Déjà. Bon, alors le glyphosate, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, c'est l'histoire d'une polémique qui n'en finit plus d'enfler, qui pourrait se résumer en une question. Faut-il ou non interdire le glyphosate, qui est l'herbicide le plus utilisé au monde? Ben, son nom ne nous dit peut-être rien, mais en agriculture, impossible d'échapper à cette molécule. Et vous le connaissez peut-être sous le nom de Roundup, qui n'est pas utilisé seulement par les agriculteurs, mais sur les terrains, les entrées asphaltées. Et ça vient du géant de l'agrochimie Monsanto. Et près de 750 autres produits commercialisés qui contiennent aussi Roundup, dans 130 pays. Alors, depuis son lancement en 1974, l'utilisation du glyphosate est passée de, écoutez bien ceci, 3200 tonnes en 1974 et on est rendu à 800 000 tonnes. C'est énorme, hein? Seulement, voilà, des scientifiques et des activistes environnementaux soupçonnent d'être cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Mais en avril dernier, Santé Canada a tranché. Elle a été la première agence réglementaire des pays industrialisés à renouveler l'utilisation du glyphosate. Ben, vous comprenez que cette bénédiction a fait réagir des groupes environnementaux, particulièrement la Fondation David Suzuki. Pour mieux comprendre la polémique, peut-être c'est mieux de retourner en arrière. Le Centre international de recherche sur le cancer, lié à l'Organisation mondiale de la santé, conclut que le glyphosate est une cause probable de cancer chez l'humain. Mais, presque comme ça arrive souvent, les recherches, presque un an plus tard, une autre étude de l'OMS, l'Organisation mondiale, et des Nations unies pour l'alimentation, conclut exactement le contraire. Alors, voilà, hein, qui va en profiter, vous pensez? Même son cloche du côté de l'Agence européenne des produits chimiques. Si bien que la Commission européenne a décidé de lancer de la procédure visant à autoriser de nouveau l'herbicide pour une période de 10 ans. Aux États-Unis, l'État de Californie a annoncé qu'il ajoutera le glyphosate à sa liste des éléments potentiellement cancérigènes. Ben, on l'a compris, hein, le degré de toxicité des pesticides, dont le Roundup, ne fait pas consensus dans la communauté scientifique. D'abord parce qu'il n'est jamais simple d'évaluer l'effet d'une molécule, quelle qu'elle soit, souvent distribuée à petite dose. Dans le cas du glyphosate, les grandes agences ont tendance à n'étudier que l'ingrédient actif de glyphosate pour prendre leurs décisions. Alors, les formules commerciales contiennent un mélange de différents produits. Donc, il n'y a pas seulement du glyphosate, c'est combiné à d'autres choses. Hein. Et les autres composants peuvent être jusqu'à 1000 fois plus toxiques que le glyphosate seul. Donc, la combinaison d'éléments. Quoi qu'il en soit, ces contradictions entre les institutions responsables devraient quand même, il me semble, tirer une sonnette d'alarme. Mais ces efforts de recherche risquent de se buter, vous vous en doutez, au lobby intense des grandes entreprises agrochimiques, dont Monsanto, bien sûr. Alors, Monsanto critique vertement la méthodologie utilisée par le Centre international de recherche sur le cancer. Ben, il y a tout intérêt à lancer une bataille. L'entreprise Monsanto a d'ailleurs affirmé dans le cadre du recours collectif aux États-Unis que le comité scientifique avait écarté volontairement une étude d'envergure. Alors, que dissimulent ces données? Ben, probablement de vilains secrets, si on se fie au travail d'un toxicologue de renommée mondiale qui a eu accès à une partie des informations transmises par l'industrie aux autorités européennes, je dis bien. Alors, contacté par courriel, ce toxicologue de renommée mondiale est d'avis que tout le processus de révision et d'évaluation, pas juste glyphosate, mais de tous les pesticides, donc le processus a besoin d'être soumis à un examen scientifique sérieux. Parce que dès qu'il y a des contradictions, surtout chez les scientifiques, ben on sait ce qui arrive, hein. C'est un enjeu de taille, hein? 30 % du chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars de Monsanto provient de la vente de Roundup, 30 % c'est un produit chouchou des agriculteurs. L'herbicide détruit les mauvaises herbes, mais il tue également toutes les plantes. Alors, si l'usage du glyphosate bondit partout dans le monde, c'est d'ailleurs à cause de l'adoption fulgurante des OGM depuis 20 ans. C'est simple, 90 % des cultures transgéniques dans le monde sont résistantes au glyphosate. Donc, ça va bien ensemble, hein? Une augmentation soutenue par le bas prix de l'herbicide depuis que le brevet de Monsanto a pris fin au début des années 2000. Donc, ce qui arrive, ben, d'autres producteurs se sont lancés dans la course, hein? En 2015, 18 millions de producteurs dans 28 pays cultivaient ainsi des plantes transgéniques et pulvérisaient, ben, évidemment, le Roundup ou d'autres produits semblables. Nos cours d'eau n'y échappent pas non plus, hein. En 2011 et 2014, entre 2011, le ministère du Développement durable a prélevé des échantillons dans des rivières situées à proximité des cultures de maïs et de soya, qui sont des cultures où on utilise beaucoup de Roundup, bien sûr. Le glyphosate a été détecté en moyenne dans 91 % des prélèvements dans des rivières. Inquiétant, hein? Alors, l'analyse des données démontre que les concentrations sont à la hausse dans les rivières des secteurs en culture intensive. Donc, ça va en s'intensifiant. Alors, la situation n'est pas prête de s'arranger, hein. Sur les quelques 4000 tonnes d'ingrédients actifs vendus au Québec en 2014, le glyphosate est de loin l'herbicide le plus vendu. La stratégie québécoise des pesticides 2015-2018 dit vouloir réglementer l'utilisation des 5 molécules les plus à risque, mais un détail, le glyphosate ne figure pas dans cette liste. Inquiétant. Le plus grand ennemi du glyphosate est le glyphosate lui-même, à cause de son utilisation effrénée qui devient un casse-tête des agriculteurs. Car depuis quelques années, les mauvaises herbes résistantes à cet herbicide se multiplient. Malheureusement, quand une molécule fonctionne, ben, on l'utilise à outrance. Et ce qui arrive, c'est qu'elle perd de son effet. Dans le monde, au moins 34 espèces de mauvaises herbes sont résistantes au glyphosate ou au Roundup. Alors, depuis 2012, le MAPAC, qui est le ministère d'Agriculture, Recherche et Alimentation, a mis sur pied un système d'analyse de résistance qui examine entre 30 et 40 échantillons de mauvaises herbes par année. Devant la gravité du problème, l'industrie a mis au point des variétés génétiquement modifiées, résistantes à plusieurs herbicides en même temps. Alors, dès ce printemps, les agriculteurs québécois ont pu semer une variété de soya qui s'appelle Soya Roundup Ready, qui est bien sûr fabriquée par Monsanto et qui résiste au glyphosate, mais aussi un autre herbicide, le dicamba. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler du dicamba et on ne dit pas s'il est aussi toxique que l'autre. Ça va être la même chose parce que si ça fonctionne, bien, ça va être surutilisé. Donc, on ne voit pas la fin de ce produit qui s'appelle le Roundup, hein, qui est de plus en plus, et de façon domestique aussi. On peut l'utiliser autour de la maison. Je sais parce que je ne connaissais pas l'effet de ce produit-là et je l'ai utilisé chez quelqu'un qui était envahi. C'est incroyable. Ça détruit absolument tout. Très, très efficace, mais selon ce qu'on dit, très nocif aussi, hein?
Après ce débat autour de la flore, je vous en propose un autour de la faune. C'est à Montréal, ici, que ça se passe, et en Suisse. Une nouvelle loi suisse interdisant de plonger des homards vivants dans l'eau bouillante pour les faire cuire fait davantage sourire que bondir de ce côté de l'Atlantique. La loi adoptée il y a 2 semaines environ par le Conseil fédéral suisse stipule que les crustacés, je cite, doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Les seules méthodes acceptées seront les décharges électriques et la destruction mécanique du cerveau. L'interdiction entrera en vigueur tout de même dès le 1er mars prochain. Le débat visant à savoir si les crustacés ressentent ou non de la douleur n'est pas réglé et n'est pas nouveau. Des chercheurs nord-irlandais ont en effet publié une étude en 2013 indiquant que ces animaux cherchaient à éviter des situations déplaisantes. ce qui permet de croire qu'ils ressentent effectivement de la douleur. D'autres experts ne sont pas convaincus et soulignent que le système nerveux des invertébrés est très différent de celui d'un autre animal. Le directeur scientifique du regroupement des pêcheurs professionnels de homards du sud de la Gaspésie et biologiste de formation, Jean Côté, note que le homard meurt très rapidement lorsqu'on le plonge dans l'eau bouillante. C'est un peu futile comme débat parce que de toute façon, on ne mange jamais des animaux vivants. Que ce soit des homards ou un autre, il faut tous les tuer d'une façon ou d'une autre, rappelle-t-il. Quand on parle de ce débat-là sur la cruauté animale, ça touche des cordes sensibles. Ce n'est pas toujours rationnel. Si vous ne voulez pas manger de viande, pour vous, et que tuer un animal, c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait, vous ne trouverez jamais une belle façon de tuer, que ce soit en l'assommant ou en l'électrocutant ou même en le faisant bouillir. Le propriétaire des restaurants montréalais Joe Beef, le Vin Pavillon et Liverpool House, David McMillan, admet avoir trouvé drôle cette nouvelle loi suisse et se demande s'il y a eu des pressions populaires de gens outrés après avoir vu des vidéos de homards vivants plongés dans l'eau bouillante sur les réseaux sociaux. Si je faisais une vidéo sur YouTube en disant « Ok, ça c'est mon agneau » et que je procède à lui couper la gorge, le dépiauter et l'éviscérer avant de faire de belles recettes avec sa chair, je n'ai aucun doute que les gens seraient outrés de voir ça. Un des seuls animaux que les gens arrivent à voir se faire tuer en ligne et sur les médias sociaux, c'est le homard, souligne-t-il. Pour le chef, il est cependant capital de demeurer respectueux envers tous les produits cuisinés, qu'il s'agisse d'un légume, d'une volaille ou d'un crustacé. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Le homard, de 4 livres, est un animal qui est sur la planète parfois depuis aussi longtemps que le cuisinier qui le prépare, relève-t-il. De son côté, il privilégie une méthode consistant à faire une petite incision avec un couteau de chef dans le dessus de la tête du crustacé, entre les deux yeux, puis de donner un coup rapide, tuant ainsi l'animal instantanément. Cette approche est également utilisée par ses collègues dans ses restaurants, selon McMillan. Les cuisiniers en herbe pourraient facilement apprendre à utiliser la même méthode à la maison. Jean Côté estime cependant que c'est peut-être trop en demander aux cuisiniers amateurs. On lui en demande un peu beaucoup parce qu'il faut avoir un couteau, savoir où aller couper. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye de faire l'éducation des gens sur la qualité du homard, leur provenance, la traçabilité, et c'est ce qu'on offre ici en Gaspésie. Quand va venir le temps en plus de dire que pour le faire souffrir moins, il faut essayer de sectionner une petite partie autour du cerveau en insérant une pointe de couteau, il faut quand même rester réaliste et je pense qu'on pousse un peu loin. Au bout du compte, M. Côté ne croit pas que la loi suisse aura des répercussions chez les pêcheurs de son coin de pays. Au Québec, en tout cas en Gaspésie, le gros de notre marché, c'est les États-Unis et ensuite je crois que c'est l'Asie. L'Europe n'est pas le marché principal. C'en est un, mais c'est mineur, conclut-il. Voilà pour les homards qui, qui effectivement, bon bah, comme tous les animaux, doivent mourir à un moment.
Ben, certains prétendent que lorsqu'on plonge le homard dans l'eau bouillante, il pousse un petit cri.
Un petit sifflement, oui. Un petit...
En fait, c'est pas du tout un cri. Il semblerait, j'ai lu quelque part, mais il y a une carapace et à l'intérieur, il y a de l'air. Lorsque vous le plongez dans l'eau bouillante, l'air est expulsé et ça produit un certain son qui attendrit certaines personnes au cœur tendre.
Sujet beauté à présent, après le homard, un sujet beauté qui vous concerne aussi, messieurs. Est-ce que vous êtes parfumés ce matin?
Oui, tout à fait, ben oui.
Ça embaume dans le studio, voilà. Grâce à Michel.
Alors, comment bien choisir son parfum? La journaliste Olivia Lévy a demandé à deux experts de nous guider, Clarisse Monroe et Simon Toulet. C'est un article paru dans la presse du 29 décembre 2017. Alors, tout d'abord, il faut savoir ce qu'on aime comme parfum, car il existe 7 grandes familles olfactives. Les floraux, les hespéridés, les boisés, les fougères, les chyprès, les ambrés ou orientaux et les cuirs. Les floraux représentent 80% du marché. On va donc très souvent s'orienter vers le floral, explique Clarisse Monroe, experte en parfum, qui cite en exemple Chanel numéro 5 ou L'air du temps de Nina Ricci. Le parfum floral n'est pas trop envahissant, il ne gênera pas les collègues de travail et surtout il constitue un excellent choix intemporel. Après les floraux, ce sont les hespéridés qui sont les plus populaires. Ce sont des parfums qui vont à tout le monde, c'est frais, c'est comme le jus de fruits du matin. On peut les porter aussi bien l'été que l'hiver, car sentir un mandarine basilic de chez Guerlain en plein hiver, ça vous donne une énergie folle, c'est l'effet de l'aromathérapie, explique Clarisse Monroe. Simon Toulet, propriétaire de la boutique Étiquette, estime quant à lui qu'il faut être curieux. Je vois des gens qui me disent « je n'aime pas la vanille ou le patchouli », alors que dans certains cas, quand ces deux éléments seront mélangés à une autre chose, ils sauront l'apprécier. Il faut donc rester ouvert, demander conseil et pouvoir ainsi faire des découvertes qui vont nous surprendre et nous faire apprécier autre chose. Alors aussi, un parfum doit se choisir le matin, car le système olfactif est plus réceptif, tout comme le cerveau et les papilles. Le système nerveux est moins fatigué, car on débute notre journée. On pourra ainsi essayer un ou deux parfums et les porter toute la journée. Comme ça, vous verrez si cela vous convient ou pas, suggère Clarisse Monroe. Simon Toulet explique que dans la pyramide olfactive, la première chose que l'on sent est la note de tête. La deuxième étape est la note de cœur qui se développe pendant plusieurs heures, puis la note de fond est celle qui s'inscrit dans la durée et qui va révéler le parfum. C'est très précis. Hein. On sent souvent le parfum sur le papier, mais il faut l'essayer sur la peau, sur les poignets, dans le cou, derrière les oreilles, et le laisser s'imprégner dans la durée, car le parfum ne sera pas le même après une heure ou après une journée, indique l'expert. On ne décide pas du parfum, c'est notre peau qui sera déterminante dans notre choix. Il y a des parfums que j'adore mais qui ne me vont pas, confie Clarisse Monroe. Pourquoi ? Il y a la peau, la personnalité, les matières, les fleurs et l'âge. Elle indique que trois femmes ne porteront pas le même parfum de la même façon. Il y aura de nettes différences selon leur peau, leur transpiration aussi et leurs hormones. Le mieux est d'essayer le parfum en le portant pendant une semaine pour savoir s'il vous correspond et si votre entourage l'aime bien aussi. Pour savoir si votre glande endorphine, celle de l'émotion et de la passion, sera régulée à cette odeur. Si vous avez mal à la tête, ce parfum n'est pas pour vous, il va sans dire, explique Clarisse Monroe. Les deux experts estiment qu'il y a beaucoup d'émotions reliées au parfum. Ça nous renvoie à des souvenirs, à des histoires que nous avons vécues. On se souvient du parfum de notre mère, de notre père, et on va prendre en compte nos souvenirs dans le choix du parfum, affirme Simon Toulet. Clarisse Monroe parle aussi de l'importance de la mémoire olfactive. On sait que vous êtes arrivé car on a senti votre parfum. Votre enfant vous dit « comme tu sens bon, maman » et il reconnaît tout de suite votre odeur. Ou alors au contraire, il ne vous reconnaîtra plus si vous changez de parfum, car un parfum, c'est un repère. Le parfum doit être aussi en adéquation avec notre personnalité, notre style, notre tempérament. Quand on est extravagant ou original, on va se démarquer et on portera un parfum plus confidentiel, car on ne veut pas ressembler à tout le monde. C'est aussi ça, trouver le bon parfum, estime Clarisse Monroe. J'ai longtemps porté le parfum patchouli d'Etro, un parfum très boisé. Je voulais me donner un air plus ou moins sérieux, car dans ma tête, cette fragrance me donnait une allure de légèreté, raconte Simon Toulet. Il se souvient que dans les années 80 et 90, le marketing des grandes marques jouait sur cette façon très forte d'incarner un parfum. Chez Étiquette, Simon Toulet vend des parfums de niche plus exclusifs. Il observe qu'il y a un véritable engouement pour les parfums originaux qui viennent de petites maisons de parfums qui se développent et qui sont désormais plus accessibles grâce au web. Et est-ce que les femmes au Québec sont fidèles à leurs parfums ? Historiquement, il n'y a pas de parfumeur ici, il n'y a donc pas d'attache ni d'identification à une maison. Les femmes aiment la nouveauté et avec les changements de saison, on a souvent un parfum d'été plus frais et un parfum d'hiver plus soutenu, explique Clarisse Monroe. Et quand on vit une période difficile dans sa vie, est-ce qu'on change de parfum ? C'est instinctif et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Quand on vit une déception amoureuse, on change de parfum comme on change de coupe de cheveux, conclut Clarisse Monroe.
Thank you.
un sous-sol. Certains vivent à Montréal et j'ai moi-même vécu quelques années dans un demi-sous-sol à Montréal. Eh bien, on peut trouver aussi parfois des crocodiles, vraisemblablement. Alors, ce n'est pas à Montréal, mais la destination va quand même vous surprendre, vous allez voir. Dans un communiqué, la police a annoncé vendredi, il y a une semaine, avoir fait cette découverte lors d'une perquisition menée au domicile d'un homme de 40 ans. Sur les rives de la mer Baltique, cette banlieue, la banlieue de Peterhof, la deuxième ville de Russie, est connue pour abriter un palais impérial au parc agrémenté de fastueuses fontaines, souvent comparées à Versailles. Avec des températures atteignant moins 7 degrés vendredi, il y a une semaine et demie, Saint-Pétersbourg est connu pour son climat humide, loin de celui auquel est habitué ce reptile vivant en eau douce et pouvant dépasser 4 mètres. Les immeubles russes sont en général fortement chauffés en hiver, c'est peut-être ce qui explique sa présence. Les policiers ont indiqué avoir retrouvé des munitions et publié des photos de l'animal occupant la totalité d'une mare boueuse creusée dans une cave poussiéreuse. Aucun incident n'a eu lieu avec le reptile, a précisé la police, ajoutant s'être adressé au service vétérinaire pour décider que faire du crocodile. L'animal habite ici depuis 2005. À l'époque, il était petit, a affirmé un voisin interrogé sur la télévision locale. Voilà, si vous voulez voir des crocodiles, rendez-vous en Russie.
Est-ce que les animaux et les insectes peuvent prévoir des catastrophes naturelles? Certains qui le prétendent. Hein? Et c'est ce qu'a croit un chercheur allemand dont l'équipe installe des puces, des GPS, sur à peu près tout ce qui bouge. Les lapins, des vaches, abeilles, des oies, chauves-souris, libellules, même poissons. Satellite mis en orbite cet automne suivra les créatures à la trace partout sur la planète afin de détecter des anomalies dans leur déplacement. Avec ces données accessibles à tous les scientifiques intéressés, le chercheur espère prévoir les épidémies propagées par les animaux, les invasions d'espèces nuisibles et même les tremblements de terre. Un tel exploit n'est pas une première pour le chercheur allemand. En étudiant les déplacements d'un troupeau de chèvres sur un volcan en Italie, de 2012 à 2014, il a été en mesure de prédire les éruptions volcaniques jusqu'à 6 heures avant qu'elles surviennent. Mm-hmm. Alors, ça pourrait être intéressant, hein, permettre aux gens de se déplacer. Donc, c'est à suivre.
Et alors, on a parlé des chameaux tout à l'heure. Sachez qu'il y a des concours de beauté de chameaux. On va rester sur la beauté. Ils ont été disqualifiés de ce concours de beauté pour utilisation de Botox. Et oui, ça existe. Du Botox a été injecté dans les lèvres, le nez et même la mâchoire de ces bêtes afin de parfaire leur apparence en vue du concours. C'est ce que rapporte The National, un article paru sur le site TVA Nouvelles d'Alexandre Tétrault. Des médias saoudiens ont rapporté que quelques jours avant le début du concours, certains chameaux, en plus du Botox, auraient reçu aussi des soins de chirurgie plastique. Selon The National, les oreilles de certaines de ces bêtes auraient été trafiquées par un chirurgien, puisqu'elles sont très payantes dans ce genre de concours. À savoir que la popularité du concours s'explique notamment par l'importance des prix remis aux gagnants. Au total, près de 57 millions de dollars américains sont offerts aux différents gagnants, tout de même. Les compétitions de ce type sont extrêmement populaires en Arabie Saoudite et les chameaux qui y participent peuvent d'ailleurs valoir plus de 1 milliard de dollars américains.
Donc, pour compléter ce dont je vous parlais sur le Roundup tout à l'heure. Il y a une entreprise suisse qui vient de mettre en service un dispositif qui capte le CO2 de l'atmosphère, puis le transforme en engrais qu'elle vend ensuite aux agriculteurs de la région. Alors, Climeworks prévoit capter 900 tonnes de CO2 dès sa première année d'existence, soit l'équivalent des émissions annuelles de 200 voitures. Donc, intéressant, hein, pour remplacer le Roundup.
Et c'est la fin de cette émission. Merci Michel, merci et bravo à Yolaine Torres,
oui,
bienvenue
madame.
Dans l'équipe, première merci. Réussie.
Ouais.
Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour les choix musicaux et la mise en onde. C'était les voix de service, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.